En n'entendant plus parler de rien, Ève, peu savante en droit commercial, pensait que son frère avait réparé son crime en payant les billets fabriqués. « Mon ami, dit-elle à son mari, cours avant tout chez Petit Claud. Explique-lui notre position et consulte-le. » « Mon ami, dit le pauvre imprimeur en entrant dans le cabinet de son camarade chez lequel il avait couru précipitamment. « Je ne savais pas, quand tu es venu m'annoncer ta nomination en m'offrant tes services, que je pourrais en avoir si tôt besoin. » Petit Claud étudia la belle figure de penseur que lui présenta cet homme, assis dans un fauteuil en face de lui. Car il n'écouta pas le détail d'affaires qu'il connaissait mieux que ne les savait celui qui les lui expliquait. En voyant entrer Séchard inquiet, il s'était dit « Le tour est fait !» Cette scène se joue assez souvent au fond du cabinet des avoués. « Pourquoi les cointés le persécutent-ils » se demandait Petit Claud. « Il est dans l'esprit des avoués de pénétrer tout aussi bien dans l'âme de leurs clients que dans celle des adversaires. Ils doivent connaître l'envers aussi bien que l'endroit de la trame judiciaire. » « Tu veux gagner du temps ?» répondit enfin Petit Claud à Séchard quand Séchard eut fini. « Que te faut-il ? Quelque chose comme 3 ou 4 mois ?»« Oh, 4 mois, je suis sauvé !» s'écria David, à qui Petit Claud parut être un ange. « Eh bien, l'on ne touchera à aucun de tes meubles, et l'on ne pourra pas t'arrêter avant 3 ou 4 mois. »« Mais cela te coûtera bien cher, » dit Petit Claud. « Et qu'est-ce que cela me fait ?» s'écria Séchard. « Tu attendais rentrer, en es-tu sûr ?» demanda l'avoué, presque surpris de la facilité avec laquelle son client entrait dans la machination. « Dans 3 mois, je serai riche !» répondit l'inventeur avec une assurance d'inventeur. « Ton père n'est pas encore entré, » répondit Petit Claud. « Il tient à rester dans les vignes. »« Est-ce que je compte sur la mort de mon père ?» répondit David. « Je suis sur la trace d'un secret industriel qui me permettra de fabriquer, sans un brin de coton, un papier aussi solide que le papier de Hollande. » et à 50% au-dessous du prix de revient actuel de la pâte de coton. C'est une fortune, s'écria Petit Claud qui comprit alors le projet du grand cointet. Une grande fortune, mon ami, car il faudra dans 10 ans d'ici 10 fois plus de papier qu'il ne s'en consomme aujourd'hui. Le journalisme sera la folie de notre temps. Personne n'a ton secret. Personne, excepté ma femme. Tu n'as pas dit ton projet et ton programme à quelqu'un. Au cointet, par exemple. Je leur en ai parlé, mais vaguement, je crois. » Un éclair de générosité passa dans la main fielée de Petit Claud, qui essaya de tout concilier. L'intérêt des cointets, le sien et celui de Séchard. « Écoute, David, nous sommes camarades de collège, je te défendrai. Mais sache-le bien, cette défense à l'encontre des lois te coûtera 5 à 6 000 francs. Ne compromets pas ta fortune. Je crois que tu seras obligé de partager avec un de nos fabricants. Voyons, tu y regarderas 2 fois avant d'acheter ou de faire construire une papeterie. Il te faudra d'ailleurs prendre un brevet d'invention. Tout cela prendra du temps et voudra de l'argent. Les huissiers fondront sur toi peut-être trop tôt, malgré les détours que nous allons faire devant eux. « Je tiens mon secret, » répondit David avec la naïveté du savant. « Eh bien, ton secret sera ta planche de salut, » répondit Petit Claud, repoussé dans sa première et loyale intention d'éviter un procès par une transaction. « Je ne veux pas le savoir, mais écoute-moi bien. Tâche de travailler dans les entrailles de la terre. Que personne ne te voie et ne puisse soupçonner tes moyens d'exécution, car ta planche te serait volée sous tes pieds. Un inventeur cache souvent sous sa peau un jobard. Vous pensez trop à vos secrets pour pouvoir penser à tout. On finira par se douter de l'objet de tes recherches. Tu es environné de fabricants. Autant de fabricants, autant d'ennemis. Je te vois comme le castor au milieu des chasseurs. » Ne leur donne pas ta peau. Merci, mon cher camarade. Je me suis dit tout cela, s'écria Séchard. Mais je te suis obligé de me montrer tant de prudence et de sollicitude. Il ne s'agit pas de moi dans cette entreprise. À moi, 1 200 francs de rente me suffiraient. Et mon père doit m'en laisser au moins 3 fois autant quelque jour. Je vis par l'amour et par ma pensée. Une vie céleste. Il s'agit de Lucien et de ma femme. C'est pour eux que je travaille. « Allons, signe-moi ce pouvoir et ne t'occupe plus que de ta découverte. Le jour où il faudra te cacher à cause de la contrainte par corps, je te préviendrai la veille, car il faut tout prévoir. Et laisse-moi te dire de ne laisser pénétrer chez toi personne de qui tu ne sois sûr comme de toi-même. » Si Résier n'a pas voulu continuer le bail de l'exploitation de mon imprimerie, et de là sont venus nos petits chagrins d'argent. Il ne reste donc plus chez moi que Marion, Kolb, un Alsacien qui est comme un caniche pour moi, ma femme et ma belle-mère.
Écoute, dit Petit Claud, défie-toi du caniche. Tu ne le connais pas, s'écria David.
Kolb, c'est comme moi-même.
Veux-tu me laisser éprouver ?
Oui, dit Séchard.
Allons, adieu.
Mais envoie-moi la belle Madame Séchard. Le pouvoir de ta femme est indispensable.
Et mon ami, songe bien que le feu est dans tes affaires, dit Petit Claud à son camarade, en le prévenant ainsi de tous les malheurs judiciaires qui allaient fondre sur lui.
Me voilà donc à pied en Bourgogne et à pied en Champagne, se dit Petit Claud après avoir reconduit son ami David Séchard jusqu'à la porte de l'étude.
En proie au chagrin que cause le manque d'argent, aux peines que lui donnait l'état de sa femme assassinée par la famille de Lucien, David cherchait toujours son problème.
Or, tout en allant de chez lui chez Petit Claud, il avait mâché par distraction une tige d'ortie qu'il avait mise dans de l'eau pour arriver à un rouissage quelconque des tiges employées comme matière de sa pâte. Il voulait remplacer les divers brisements opérés par la macération, par le tissage, enfin par l'usage de tout ce qui devient fil, linge, chiffon. Quand il alla par les rues, assez content de sa conférence avec son ami Petit Claud, il se trouva dans les dents une boule de pâte. Il la prit sur sa main, l'étendit, et vit une bouillie supérieure à toutes les compositions qu'il avait obtenues. Car le principal inconvénient des pâtes obtenues des végétaux est un défaut de liant. Ainsi la paille donne un papier cassant, quasi métallique et sonore. Ces hasards-là ne sont rencontrés que par les audacieux chercheurs des causes naturelles.
Je vais, se disait-il, remplacer par l'effet d'une machine et d'un agent chimique l'opération que je viens de faire machinalement.
Et il apparut à sa femme dans la joie de sa croyance à un triomphe.
Oh mon ange, sois sans inquiétude, dit David en voyant que sa femme avait pleuré.
Petit Claud nous garantit pour quelques mois de tranquillité.
L'on me fera des frais, mais comme il me l'a dit en me reconduisant, tous les Français ont le droit de faire attendre leurs créanciers, pourvu qu'ils finissent par leur payer capital, intérêt et frais.
Eh bien, nous paierons.
Et vivre, dit la pauvre Ève qui pensait à tout.
Ah, c'est vrai, répondit David en portant la main à son oreille, par un geste inexplicable et familier à presque tous les gens embarrassés.
Ma mère gardera notre petit Lucien, et je puis me remettre à travailler, dit-elle.
Ève, oh mon Ève, s'écria David les larmes aux yeux, en prenant sa femme et la serrant sur son cœur.
Ève, à deux pas d'ici, à Saintes, au XVIe siècle, un des plus grands hommes de la France, car il ne fut pas seulement l'inventeur des émaux. Il fut aussi le glorieux précurseur de Buffon, de Cuvier. Il trouva la géologie avant eux, ce naïf bonhomme. Bernard de Palissy souffrait la passion des chercheurs de secrets. Mais il voyait sa femme et ses enfants, tout à faubourg contre lui. Sa femme lui vendait ses outils. Il errait dans la campagne, incompris, pour chasser, montrer au doigt.
Mais moi, je suis aimée.
Bien aimée, répondit Ève avec une sainte et placide expression.
On peut souffrir alors tout ce qu'a souffert ce pauvre Bernard de Palissy, l'auteur des faïences des coins, et que Charles IX accepta de la Saint-Barthélemy, qui fit enfin, à la face de l'Europe, vieux, riche et honoré, des cours publics sur sa science des terres, comme il l'appelait.
Tant que mes doigts auront la force de tenir à faire un repasser, tu ne manqueras de rien, s'écria la pauvre femme avec l'accent du dévouement le plus profond. Dans le temps que j'étais première demoiselle chez Madame Prieur, j'avais pour amie une petite fille bien sage, la cousine à Postel, Bazine Clerget. Eh bien, Bazine vient de m'annoncer, en m'apportant mon linge fin, qu'elle succède à Madame Prieur. J'irai travailler chez elle.
Ah, tu n'y travailleras pas longtemps, répondit Séchard.
J'ai trouvé.
Pour la première fois, la sublime croyance au succès qui soutient les inventeurs et leur donne le courage d'aller en avant dans les forêts vierges du pays des découvertes fut accueillie par Ève avec un sourire presque triste. Et David baissa la tête par un mouvement funèbre.
Oh mon ami, je ne me moque pas, je ne ris pas, je ne doute pas, s'écria la belle Ève en se mettant à genoux devant son mari.
Mais je vois combien tu avais raison de garder le plus profond silence sur tes essais, sur tes espérances.
Oui, mon ami, les inventeurs doivent cacher le pénible enfantement de leur gloire à tout le monde, même à leurs femmes.
Une femme est toujours femme. Ton Ève n'a pu s'empêcher de sourire en t'entendant dire « J'ai trouvé ». pour la 17e fois depuis un mois. David se mit à rire si franchement de lui-même qu'Ève lui prit la main et la baisa saintement. Ce fut un moment délicieux, une de ces roses d'amour et de tendresse qui fleurissent au bord des plus arides chemins de la misère et quelquefois au fond des précipices. Ève redoubla de courage en voyant le malheur redoubler de furie. La grandeur de son mari, sa naïveté d'inventeur, les larmes qu'elle surprit parfois dans les yeux de cet homme de cœur et de poésie, tout développa chez elle une force de résistance inouïe. Elle eut encore une fois recours aux moyens qui lui avaient déjà si bien réussi. Elle écrivit à M. Métivier d'annoncer la vente de l'imprimerie, en lui offrant de le payer sur le prix qu'on en obtiendrait, et en le suppliant de ne pas ruiner David en frais inutiles. Devant cette lettre sublime, Métivier fit le mort. Son premier commis répondit qu'en l'absence de M. Métivier, il ne pouvait pas prendre sur lui d'arrêter les poursuites. Telle n'était pas la coutume de son patron en affaires. Ève proposa de renouveler les effets en payant tous les frais, et le commis y consentit, pourvu que le père de David Séchard donnât sa garantie par un aval. Ève se rendit alors à pied à Marsac, accompagnée de sa mère et de Kolb. Elle affronta le vieux vigneron. Elle fut charmante. Elle réussit à dérider cette vieille figure. Mais quand le cœur tremblant, elle parla de l'aval, elle vit un changement complet et soudain sur cette face soulographique. Si je laissais à mon fils la liberté de mettre la main à mes lèvres, au bord de ma caisse, il la plongerait jusqu'au fond de mes entrailles, s'écria-t-il. Les enfants mangent tous à même dans la bourse paternelle. Et comment ai-je fait, moi? Je n'ai jamais coûté un liard à mes parents. Votre imprimerie est vide. Les souris et les rats sont seuls à y faire des impressions. Vous êtes belle, vous, je vous aime. Vous êtes une femme travailleuse et soigneuse. Mais mon fils, savez-vous ce qu'est David? Eh bien, c'est un fainéant de savant. Si je l'avais lairé comme on m'a lairé, sans se connaître aux lettres, et quand j'en eusse fait un ours, comme son père, il aurait les rentes. Oh, c'est ma croix, ce garçon-là, voyez-vous. Et par malheur, il est bien unique, car sa retiration n'existera jamais. Enfin, il vous rend malheureuse. Ève protesta par un geste de dénégation absolue. Oui, reprit-il en répondant à ce geste. Vous avez été obligé de prendre une nourrice. Le chagrin vous a taré votre lait. Je sais tout, allez. Vous êtes au tribunal et tambouriné par la ville. Je n'étais qu'un ours. Je ne suis pas savant. Je n'ai pas été proche chez Messieurs Didot, la gloire de la typographie. Mais jamais je n'ai reçu de papier timbré. Savez-vous ce que je me dis en allant dans mes vignes, les soignant et récoltant, et faisant mes petites affaires? Je me dis, mon pauvre vieux, tu te donnes bien du mal. Tu mets écu sur écu. Tu laisseras de beaux biens. Ce sera pour les huissiers, pour les avoués ou pour les chimères. Pour les idées. Donnez, mon enfant, vous êtes mère de ce petit garçon qui m'a eu l'air d'avoir la truffe de son grand-père au milieu du visage quand je l'ai tenu sur les fonds avec Madame Chardon. Eh bien, pensez-moi assez cher qu'à ce petit drôle-là. Je n'ai confiance qu'en vous. Vous pourriez empêcher la dissipation de mes biens, de mes pauvres biens. Mais mon cher papa Séchard, votre fils sera votre gloire, et vous le verrez un jour riche par lui-même et avec la croix de la Légion d'honneur à la boutonnière. « Qui fera donc pour cela ?» demanda le vigneron. « Vous le verrez. Mais en attendant, 1000 écus vous ruinerait-il ? Avec 1000 écus, vous feriez cesser les poursuites. Eh bien, si vous n'avez pas confiance en lui, prêtez-les-moi, je vous les rendrai. Vous les hypothéquerez sur ma dot, sur mon travail. » David Séchard est donc poursuivi ? S'écria le vigneron, étonné d'apprendre que ce qu'il croyait une calomnie était vrai. « Voilà ce que c'est que de savoir signer son nom. Et mes loyers ? « Oh, il faut, ma petite fille, que j'aille à Angoulême me mettre en règle et consulter Cachan, mon avoué. Vous avez joliment bien fait de venir. Un homme averti en vaut deux. » Après une lutte de 2 heures, elle fut obligée de s'en aller, battue par cet argument invincible. Les femmes n'entendent rien aux affaires. Venue avec un vague espoir de réussir, Ève refit le chemin de Marsac à Angoulême presque brisé. En rentrant, elle arriva précisément à temps pour recevoir la signification du jugement qui condamnait Séchard à tout payer à Métivier. En province, la présence d'un huissier à la porte d'une maison est un événement. Mais Doublon venait beaucoup trop souvent depuis quelque temps pour que le voisinage n'en causât pas. Aussi,
Ève n'osait-elle plus sortir de chez elle? Elle avait peur d'entendre des chuchotements à son passage. « Oh, mon frère !» s'écria la pauvre Ève en se précipitant dans son allée et montant les escaliers. « Je ne puis te pardonner que s'il s'agissait de tard !»« Hélas !» lui dit Séchard qui venait au-devant d'elle. « Il s'agissait d'éviter son suicide !»« N'en parlons donc plus jamais » répondit-elle doucement. « La femme qui l'a emmenée dans ce gouffre de Paris est bien criminelle. Et ton père, mon David, est bien impitoyable. Souffrons en silence. » Un coup frappé discrètement arrêta quelques tendres paroles sur les lèvres de David, et Marion se présenta, remorquant à travers la première pièce le grand et gros Kolb. « Madame, dit-elle, Kolb et moi, nous avons su que monsieur et madame étaient bien tourmentés. Et comme nous avons à nous deux 1600 francs d'économie, nous avons pensé qu'il ne pouvait pas être mieux placé qu'entre les mains de madame. « Tiens, madame !» répéta Kolb avec enthousiasme. « Kolb !» s'écria David Séchard. « Nous ne nous quitterons jamais. Porte 1000 francs à compte chez Cachan, l'avoué, mais en demandant une quittance, nous garderons le reste. Kolb, qu'aucune puissance humaine ne t'arrache un mot sur ce que je fais, sur mes heures d'absence, sur ce que tu pourras me voir apporter. Et quand je t'enverrai chercher des herbes, tu sais, qu'aucun œil humain ne te voit. On cherchera, mon beau Kolb, à te séduire. On t'offrira peut-être des 1000, des 10 000 francs pour parler. On m'offrirait bien tes millions, que je ne tirerais pas une botte. Est-ce que je ne connais point la consigne militaire? Tu es averti, marche, et va prier monsieur Petit-Claude d'assister à la remise de ses fonds chez monsieur Cachan. Oui, fit l'Alsacien, j'espère être assez riche un jour, bien lui domber sur les gazaquins, à cet homme de justice. J'aime pas sa visage. C'est un bon homme, madame, dit la grosse Marion. Il est fort comme un turc et doux comme un mouton. En voilà un qui ferait le bonheur d'une femme. C'est lui, pourtant, qui a eu l'idée de placer ainsi nos gages, qu'il appelle des caches. Pauvre homme, s'il parle mal, il pense bien, et je l'entends tout de même. Il a l'idée d'aller travailler chez les autres pour ne nous rien coûter. On deviendrait riche uniquement pour pouvoir récompenser ces braves gens-là, dit Séchard en regardant sa femme. Ève trouvait cela tout simple. Elle n'était pas étonnée de rencontrer des âmes à la hauteur de la sienne. Son attitude lui expliquait toute la beauté de son caractère aux êtres les plus stupides, et même à un indifférent. Vous serez riche, mon cher monsieur. Vous avez du pain de cuit, s'écria Marion. Votre père vient d'acheter une ferme. Il vous en fait aller, des rentes. Dans la circonstance, ces paroles dites par Marion pour diminuer en quelque sorte le mérite de son action, ne trahissaient-elles pas une exquise délicatesse?